Signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 11 septembre dernier à minuit, 9 jours après le début du procès des attentats de janvier 2015 et 19 ans jour pour jour après l'attaque du World Trade Center à New York, Spotify publiait La Menace Fantôme, nouvel album d'un rappeur peu connu jusque-là en dehors des spécialistes, Freeze Corleone. L'album ambitieux contenant 17 titres était le premier du rappeur publié par un grand label, en l'occurrence Universal. En 3 jours, plus de 15 000 exemplaires se sont écoulés et les écoutes explosaient en streaming. Avec 5,2 millions d'écoutes en 24 heures sur Spotify, La Menace Fantôme se positionnait comme le 4e meilleur démarrage d'un album de rap en 2020, devant des mastodontes de la production rap en France comme Kaaris. La plupart des titres de La Menace Fantôme sont entrés directement dans le top 50 français, à l'image du morceau d'ouverture Freezael, qui culmine à la 2e place. Freeze Corleone est donc le phénomène de cette fin d'année 2020. Un phénomène que le 16 septembre, la LICRA a dénoncé dans un communiqué comme antisémite, obsédé par les juifs, complotiste, faisant l'apologie d'Hitler, du Troisième Reich et du terrorisme, provoquant du même coup le retrait d'Universal et l'ouverture d'une enquête du parquet. Un album à succès fait-il vraiment l'apologie du terrorisme alors que dans la presse se succèdent les témoignages poignants des survivants de la terreur? Et pourquoi Corleone a-t-il été défendu par une partie de la presse, notamment par Libération et d'autres? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Virginie Sansico. Virginie Sansico, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, auteure de 2 livres, La justice du pire, les cours martiales sous Vichy et La justice déshonorée 1940-1944. Vous êtes membre du programme de recherche Jupiter qui travaille sur les procès du terrorisme aujourd'hui et dans l'histoire. Vous suivez le procès des attentats en ce moment, des attentats de 2015.
Exactement.
Rachel Kahn, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes fille d'un père gambien musulman et d'une mère juive polonaise cachée pendant la guerre, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument.
Vous vous définissez comme afro-yiddish tourangelle, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait
voilà.
Ça.
Vous avez été championne d'athlétisme, conseillère à la culture de Jean-Paul Huchon, si j'ai bien lu.
Oui.
Vous êtes romancière, vous êtes actrice, vous êtes co-auteur du recueil Manifeste Noir n'est pas mon métier, et vous êtes co-directrice de La Place, le centre culturel hip-hop de la ville de Paris. Et vous êtes là aussi parce que vous avez publié dans le Huffington Post un article sur la polémique actuelle qui s'appelle « Face au punchline antisémite de Freeze Corleone, ne créons pas un dieudonné 2.0 ». Et enfin, Bruno Laforesterie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis 2014 le directeur de la chaîne du MOOV, la radio centrée sur les cultures urbaines, le hip-hop et la musique électronique au sein de Radio France, qui a parlé de Freeze Corleone plusieurs fois, notamment à l'occasion de la sortie de cet album. Et donc, on va en parler ensemble.
Et je ne suis pas athlète.
Et vous n'êtes pas athlète, absolument. Alors, la première chose, tous les trois, est-ce que vous avez réussi, les uns et les autres, à écouter certains des textes de Freeze Corleone et à les comprendre à la première écoute?
Oui, alors moi,
Rachel Kahn,
j'ai un fils qui a 24 ans et qui commence à écrire ses textes. Mmh. Et je crois qu'il est venu, mais bien avant en fait la polémique, il est venu me voir et je ne sais pas si c'était pour me titiller parce qu'il connaît mon attachement à la mémoire, à l'histoire et tout ce qu'on porte d'un point de vue familial. Il est venu un peu fièrement me dire, écoute, Freeze Corleone, je trouve que ses punchlines et sa manière de kicker est absolument formidable. C'est comme ça que j'ai découvert, j'ai écouté.
Et vous avez compris ce qu'il disait, parce que c'est pas flagrant à la première écoute.
Bah, en fait, c'était très précisément ce que me pointait mon fils. C'était très précisément
les fameuses phrases, les fameuses punchlines.
Ouais,
on va en écouter quelques-unes. Hein. Dit par exemple, j'arrive, les fameuses phrases que tout le monde cite. J'arrive des terres comme Adolphe années 40. J'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Shenzhen, j'ai les techniques de propagande de Goebbels. Il fait aussi l'apologie d'un conspirationniste allemand qui s'appelle Jan van Essling, condamné par la justice pour antisémitisme et qui salue. De ces fameux SO, ça veut dire shout out, ça vient de l'argot américain, et c'est une sorte de salut. Voilà, donc on va écouter tout de suite un peu de Freeze Corleone pour se mettre dans le bain.
Freeze sur la prod qui comme Israël, Fox est né comme Israël, chaîne Laden, dans le complot comme les Ben Laden, Chirac comme JB Ben Laden, je les vois petits comme si j'étais sans pied, on veut les VVS sur les dents.
entier. À propos des sommes comme les banquiers, investisseurs, architectes et chefs de chantier. Je veux le bif comme The Rock. 2020, le rap c'est satanique comme le rock. Caliwi, prométhazine et le fer comme 10 blocs. Europe, concurrent, je laisse que des mégots. Je suis là pour les deux, peines de mort pour les pédos. Je mixe le lin dans les fégots. Dakar, on empile les briques comme des Legos. Sur la corniche dans les forêts. Menace fantôme pour faire saigner tes oreilles. Là au pack négro, j'ai fumé des forêts. J'fume des runs, c'est des gélatis. Dans le milieu comme Marco Verratti. Gros accord là dans la Maserati. Quoi qu'il arrive, je prends ma part. Shenzhen et qui est TVA. Faut que je pèse comme un propriétaire de club de Liga BBVA. J'ai mes droits, j'ai mes masters. J'fume des Audi, j'fume des masters. J'ai le business carré pour qu'on roule tous en Maybach comme des pasteurs. J'suis giga t'es nano. Ils peuvent pas me voir comme si j'ai l'anneau. Switch ça rentre sans toucher l'anneau. Le lin est rose comme le gelano. J'suis dans le piège, pas de bistrot. Designer avec le cash de distro. J'ai v'là de rimes comme Larousse. Et j'suis partout comme Harouf. Devant la cage comme Erling. Que j'en mets des soupapes comme Sterling. Faut des 4x4 et des berlines. Des euros, des dollars et des livres sterling. Rap français, sur sa tête, place le réticule. SO Mac derrière, j'veux que ma bitch aille en SL cacher le pédicure. Dans le complot comme la MPC. J'suis dans le sud, j'fais des SBC. J'arrive chinois comme la HSBC. Quand on rentre, ça sent la loud dans le lobby. SO la sec chaque jour, j'aurais rien sans lobby. Corleone qui est The Collector. SO Trika Supreme les Protector. Sur la proche, front et cheville comme professeur au Bone Collector. Mon report, juste pour Adama. SO Nick Pandélé comme en Alabama. Shenzhen, Gassen comme Baba Mal. Que je leur mets des vitesses comme Adama. Bientôt je me présente au municipal. SO Libby le base god. Sous potion avec l'exemple, je vois flou, je marche comme un zombie de Days Gone. 20-20 menace fantôme. Je veux la Continental et la fantôme. Pétasse.
Alors, c'est pas la première fois hein, que Fritz Corleone sort un album un 11 septembre. Un précédent album, le RAR, est sorti le 11 septembre 2018, et les dates d'attentats reviennent constamment dans ces albums, au point de former presque une trame narrative. Fin des temps, FDT, est sorti un 11 septembre. La mixtape THC, Vieille Merde, volume 2, sont les titres. Hein, ont été publiés le 8 janvier 2016, c'est-à-dire un an après la journée de deuil national pour les attentats de l'année précédente. Projet Blue Beam, son dernier album avant celui-ci, est sorti un 13 novembre 2018, journée des attentats du Bataclan. Dit quelque chose en faisant ça, non ?
Il y avait même, je crois, une rumeur sur les réseaux sociaux qui indiquait qu'il avait l'intention de sortir La Menace Fantôme le 7 janvier 2020. Il y a eu tout un des débats sur Twitter à l'époque. Ouais, donc oui, effectivement, il y a une volonté d'arriver à des dates précises pour faire saigner les oreilles, comme il le dit, et puis choquer.
Et pour celui-ci, il y a deux événements. Il y a le 11 septembre, et il y a, enfin, l'anniversaire du 11 septembre, et il y a le procès des attentats de janvier. Il sort juste à ce moment-là. Alors, dans l'article que le MOVE a publié à cet album...
Il y a un an.
Il y a un an, mais qui a été republié le 30 septembre dernier, non ?
Qui a été republié, qui a été mis à jour par rapport
à jour.
Au fait qu'il était aujourd'hui sous la menace d'une condamnation. Et on l'a réédité pour donner l'actualité de Fritz Corleone.
Voilà.
Mais c'était un article qui datait d'il y a un an avant la sortie de...
Avant la sortie de celui-ci.
Voilà. Ouais. Bien avant, et qui était un article qui essayait de décrypter la complexité du personnage et qui mettait en avant aussi ses failles.
Oui, alors, il est écrit quand même, on verra en Fritz Corleone, selon le point de vue, un pur complotiste ou au contraire un esprit éclairé, l'idéal étant de rester mesuré et de considérer qu'il s'agit avant tout d'un garçon qui se pose beaucoup de questions et refuse des réponses trop évidentes. Et
on dira aussi, les allusions ne sont pas seulement borderline, elles apparaissent parfois comme rien provocantes, au point de laisser planer une certaine forme d'ambiguïté, et on parle de l'antisémitisme, et on sent que c'est inacceptable. Parce qu'en fait, moi, pour revenir peut-être sur ma présence aujourd'hui aussi, et l'explication, parce que je ne suis pas le programmateur ni monsieur rap de MOVE, je suis le directeur et j'incarne ce projet, donc je l'assume à 100% évidemment. Moi, ce que je comprends, et pour répondre à la question que vous avez posée aussi à Rachel Kahn, moi c'est mon fils qui m'en a parlé le premier, au-delà de la lecture que j'avais pu faire de cet article en disant c'est un personnage assez sombre, effectivement, qui est dans l'ordre en grande, dans une forme de marge qu'il assumait. Hein. Il y a un an, il était encore plus dans la marge qu'il l'est aujourd'hui, ayant pas de sortie proéminente et de vente à ce point-là. Et j'avais été saisi par le fait qu'effectivement, on parlait d'antisémitisme déjà. Mm-hmm. Et évidemment, ça clairement avait alerté mon esprit, disant qui est cette personne. Mm-hmm. Je connaissais pas plus que ça sa discographie. Mais mon film, on en a reparlé il y a un mois et demi, en me disant, il y a la drill qui arrive en France. C'est un truc de fou, la drill. C'est le mouvement anglais actuellement qui a beaucoup de succès sur la manière dont on kick, qu'on trouve chez les Skepta, chez un grand mouvement anglo-saxon qui est la manière de rapper. Il me dit, ouais, il y a ces gars-là, Fritz Corleone, c'est un mec de la drill. Et c'est comme ça que je me dis, tiens, ce gars-là est en train de percer chez les jeunes, parce que quand un gamin de 16 ans me parle de ses potes et me dit qu'ils le font dans la drill, je me dis, tiens, c'est un phénomène qui existe. Ensuite, évidemment, quand s'est posé la question, je participe au comité de programmation, mais je suis les dossiers, on m'a dit, tiens, Fritz Corleone arrive, un album Universal. Mon programmateur m'a dit, on ne va pas le jouer, c'est pas quelqu'un qu'on va programmer, parce qu'il n'est pas dans notre esprit. Moi, le sujet s'est arrêté là, en ce qui le concerne. Ensuite, clairement, le débat a été ensuite mené sur Move en disant qui est cette personne, qu'est-ce qu'il y a derrière, et la manière dont l'interpellation légitime qui a été faite, et plus que l'interpellation, la dénonciation a permis en interne aussi, au travers l'ensemble des équipes, d'avoir une discussion, un débat sur Fritz Corleone, et d'essayer de comprendre quel était ce personnage, sa personnalité, et exactement quel était son parcours, et pourquoi une forme d'obsessionnel sur certains sujets, dont les questions de gidéophobie, dont les questions de complotisme au sens large, pourquoi c'est ce jeune qui n'est plus jeune, il a 28 ans, c'était construit, entre guillemets, artistiquement, sur une série de visions du monde satanique. Parce qu'il le dit, le rap c'est satanique, ce que j'ai quand même bien regardé, le dernier album, le rap c'est satanique comme le rock, et il est totalement, évidemment, je n'ai jamais écouté de rock satanique, ni de rap satanique d'ailleurs, parce que je suis de la génération un peu plus old school, comme vous pouvez le savoir et comme vous pouvez le voir. Mais effectivement, de cette construction satanique, explique beaucoup de choses de la manière dont il considère que le satanisme, au travers toutes les représentations les pires qui puissent exister, interpelle le monde. Et évidemment, la question des dates n'est pas du tout innocente, parce que dans cette logique d'interpellation, de chocage, de satanisme total, il faut prendre les dates les pires, il les assume parce qu'il les a décidées.
Et évidemment, dans l'émission que j'ai écouté, une des émissions de Move qui lui consacrait, l'émission de Pascal Seyfran, où il parlait de la sortie de l'album, c'était quand même très soft. Les commentaires, c'est quand même... heureusement qu'il est métisse, sinon on se poserait des questions.
Parce qu'en fait, il y a des sujets sur la négrophobie qui sont posés, et je pense que Rachel a soulevé le sujet. Juste sur Move, pour bien préciser, on a une émission de débat qui est une grande table, où des journalistes spécialisés qui viennent d'autres médias. On a fait, nous, sur notre média, on considère qu'on est un média public, donc il doit s'ouvrir à tous les médias, y compris spécialisés privés. Donc on a une dizaine, on va dire, de journalistes qui viennent chaque semaine, en changeant, pour représenter leur point de vue de journaliste, et on l'assume. C'est notre rôle à 100% de leur permettre une expression.
Oui, mais enfin, voilà. dans cette émission-là, il y a quand même dit que l'album est super, qu'il n'est pas là, fait mention de
parce que cet album... Voilà, cet album, il n'en a pas fait mention, on en avait fait mention avant sur les précédents projets.
Je trouve que c'est très très intéressant, parce qu'en fait j'ai l'impression, et dans le débat, pas simplement sur l'antisémitisme et certaines tensions, le voile, etc., j'ai l'impression qu'on accorde un propos nuancé et qu'on veut de la nuance, mais que dans un seul sens.
Ça
veut dire que, par exemple, sur mon article, je sais que, notamment, moi, certains proches qui travaillent à la LICRA, certains proches de la communauté juive, parce que je suis juive et je suis proche de cette communauté, des gens, ils ont été très frileux à soutenir mes propos, alors même que je mets en avant le fait que personne n'est au-dessus des lois. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi à Move. C'est-à-dire que, en fait, personne n'est au-dessus des lois. Après, on travaille sur des esthétiques. Et je rappelle encore ce mot esthétique. Parce que quand j'entends un Éric Zemmour, parce que j'ai revu là, avec son actualité, les propos qu'il tenait, le rap est une sous-culture d'analphabète. C'est pas comme ça qu'on règle les questions d'antisémitisme.
Alors vous écrivez, une nouvelle fois l'extrême droite, à propos de Fritz Corleone, hein, une nouvelle fois l'extrême droite en profite, une nouvelle fois le hip-hop est stigmatisé, une nouvelle fois les injonctions de choisir un camp s'affirment. Je ne souhaite pas me laisser happer par le rythme des réseaux sociaux qui alimentent tensions et replis des deux côtés sans jamais résoudre notre problème, qui est la montée de l'antisémitisme. Le succès, vous dites, le succès de Fritz Corleone est dû à sa marque de fabrique, un flow autour de punchlines qui heurtent, le tout porté par un personnage obscur, mais jamais le débat n'a eu lieu, jamais l'artiste ne s'est exprimé, voilà notre échec collectif. En quoi est-ce que l'existence de Corleone est un échec collectif?
Je voudrais dire sur l'antisémitisme. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que mon grand-père a été dénoncé par ses voisins français.
Oui, oui.
Et les petits français comme Fritz Corleone sont antisémites aujourd'hui. D'accord. Ils ont un patrimoine français. Et donc aujourd'hui, on ne règle pas cette question. C'est-à-dire qu'on veut faire du rap des gens, de l'immigration, de je ne sais pas quoi. C'est le patrimoine français. Et aujourd'hui, on le sait, la LICRA l'a dit, les montées antisémites, on a vu l'hypercachère, etc., on le vit, moi je le vis dans mon sang, j'entends des propos antisémites, mais j'entends aussi des propos négrophobes qui sont dans les textes de Corleone, des profonds homophobes, et ça, ça n'a pas été dénoncé par la LICRA, et ça, je le regrette vivement.
Alors, on va creuser cette histoire d'héritage français tout à l'heure. Virgile Sansicot, sur ce que vient de dire.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que l'indignation, ça ne construit pas, en tout cas, sur ce genre de sujet. Ça ne fait que creuser la fracture. Enfin, Fritz Corleone, il est un symptôme. Finalement, il représente des idées qui sont dans l'air du temps aussi, notamment dans la jeunesse. Et c'est vrai que la concordance entre les événements. Certains sont portés sur ce procès qui s'ouvre là, qui fait une grande actualité, oui. Comme un procès qui est censé être cathartique, etc. En même temps, il y a ce jeune qui arrive avec ces paroles-là, qui parle de la Shoah de manière étonnante, on va dire, à tout le moins, pour d'autres personnes qui vont avoir un autre point de vue, qui parle de l'histoire de manière très particulière. Et oui, il y a une fracture mémorielle, il y a une fracture dans les codes de pensée ces jeunes par rapport à une autre génération. Et il ne suffit pas de s'indigner. C'est effectivement aussi notre échec de voir qu'il y a une telle fracture et qu'il y a un certain nombre de garde-fous qui n'ont pas été intégrés, de garde-fous intellectuels qui ne sont pas intégrés par ces jeunes.
Ce qui est fascinant, vous assistez au procès des attentats de janvier, moi j'y suis allé aussi, sortir de la salle d'audience après avoir entendu les témoignages qu'on entend et tomber sur cette polémique ou tomber sur l'émission de Cyril Hanouna, la double émission de Cyril Hanouna où Valérie Benahim, la chroniqueuse, a commencé par s'en prendre à Corleone et puis ensuite elle est revenue sur ses propos en disant que finalement c'était un artiste et la deuxième émission s'est achevée par Cyril Hanouna expliquant que il fallait pas faire des choses comme Corleone et parler de la Shoah comme il en parlait, il fallait pas non plus faire ce que fait Charlie Hebdo parce que c'est mettre de l'huile sur le feu et la petite Mila avait bien raison de se cacher maintenant parce qu'elle avait dit sur l'islam des choses épouvantables et que donc il fallait préserver la religion depuis l'islam jusqu'à la Shoah. C'est en gros ce qu'a dit Cyril Corleone.
C'est un raccourci.
On arrive à un niveau de confusion extrême entre les deux émissions, même si C8 est très discrète sur le sujet. Il y a eu un flot de tweets antisémites de la part des fans de Corleone contre Valérie Benahim, et même, à quoi la presse américaine qui s'est intéressée au sujet, une agression physique. Un type a dû être arrêté par la sécurité alors qu'il venait s'en prendre à Valérie Benahim dans le studio, d'après ce qu'on peut lire dans la presse américaine. La chaîne refuse de s'exprimer là-dessus. Hein, on se demande pourquoi, d'ailleurs.
Je pense que ce qui est soulevé, vraiment, ce que vient d'être soulevé au travers votre exemple logique de représentation et de débat sur des sujets, ce que vous avez dit, toutes les deux, moi, c'est le cœur de notre problématique et du sujet qui fait que c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis pas là pour personnellement. Il y a des gens bien mieux placés pour expliquer mot par mot ce que raconte Corleone ou pas que moi. Je suis là pour essayer d'exprimer 25 ans de travail, notamment dans le rap, hein, parce que j'ai pas fait que ça, mais j'en ai fait beaucoup. Et l'évolution, la perception qui peut être la mienne, et puis plein de gens de ma génération hein, aussi, sur ce qui se dit, ce qui se passe, avec effectivement peut-être un petit avantage d'être très vite connecté avec ce qui se passe et d'essayer d'avoir malgré tout du recul. Moi, l'analyse que j'en ai, si vous me posez la question de Fritz Corleone, c'est un jeune homme qui est bousillé par les vidéos complotistes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, on le sait, donc parce qu'après on s'informe, qui effectivement est entré dans une forme de matrice. Qui est une matrice qu'on trouve sur YouTube, et qui a construit une réalité, sa réalité, autour de cette série de théories complotistes qui sont extrêmement larges et qui sont, pour beaucoup, à portée antisémite. C'est une réalité de son personnage. Oui. Ensuite, l'artiste, parce qu'il ne s'appelle pas Fritz Corleone, il a un nom de famille, et puis l'artiste en fait une sorte d'exégèse qui peut apparaître nauséabonde, et effectivement, le tout dans une discipline artistique et dans un savoir-faire, dans un art qui est extrêmement codé, et pas que dans cette situation, mais qui est effectivement extrêmement considéré comme, par tous les jeunes, parce que quand on pose la question aux jeunes, comme chose de manière extrêmement bien faite. Voilà, quand on pose le débat, quel est notre sujet.
Il y a plusieurs choses là. D'une part, il faut quand même signaler que pendant longtemps, Corleone a été admirer sans qu'on parle du contenu de ses textes, hein, dans le milieu du hip-hop et dans la presse du hip-hop.
C'est pour ça Olivier qu'on en a parlé, nous, les premiers, il y a un an.
Olivier Lam en parle dans Libération aussi. On donne l'impression de découvrir quelque chose qui circulait quand même depuis longtemps. Et les commentaires qu'on peut voir sur les commentaires de l'époque, qu'on peut voir sur YouTube ou dans la presse spécialisée, il y a cette idée qu'il dénonce, on se demande pas trop ce qu'il dénonce, mais il dénonce, et ça, c'est super.
La dénonciation.
Alors, sur la forme de ses chansons et de ses clips, ça fait penser à la culture underground. C'est très référencé. Il y a une notion de cut-up qu'on dirait héritée de William Burroughs par certains aspects. La culture en moins, parce que Burroughs avait quand même du Shakespeare et T.S. Eliot. Mais on retrouve cet aspect des choses, cette espèce d'aller chercher comme ça l'inspiration absolument partout, y compris dans l'actualité. Il est très difficile de trouver des informations sur le groupe parce que au départ, Corleone, c'est un groupe, il s'appelle La Secte. C'est une petite équipe de gens. Il est difficile de savoir qui en fait réellement partie. On sait que la plupart ont grandi ensemble à Dakar. Il y a une quinzaine de personnes autour de lui qu'on a à peu près répertoriées. Je parle sous votre contrôle, Rachel Khan, vous connaissez ça mieux que moi. Qui se font appeler Afro Samouraï, Norzace, Berlusconi, Kix, Kaki, etc., etc. Et c'est Freeze Corleone apparemment qui a décidé de les réunir pour faire de la musique tous ensemble. Ils sont plusieurs noms. Ils se sont fait appeler Mangemort Squad, La Ligue des Ombres. Freeze Corleone lui-même a plusieurs noms. Il se fait appeler Shenzhen, Thanos, Prof Chen. Et le nom qui revient le plus en ce moment, c'est 667. C'est là où on n'est pas simplement dans le satanisme, hein, c'est que 667, ça a quand même un sens. Corleone est féru de science, il fait de la numérologie. Mm-hmm. 667, c'est le chiffre 19.
Kabbalistique.
Et c'est aussi un chiffre qu'on trouve dans la version Internet de l'islam. Ouais. C'est-à-dire que sur les sites, le site Al-Nas, par exemple, le verset d'ouverture, au nom de Dieu le clément miséricordieux, il est dit que le verset comprend 19 lettres, le nombre de sourates est égal à 114, la sourate numéro 114, les hommes, contient 6 versets, si l'on divise 114 par 6, on obtient 19, etc.
Ce qu'il faut savoir, et un complément de ce que vous dites, que je pense que vous avez deux informations, je pense, importantes pour nourrir le débat. Un, évidemment, des crews dans le rap, il y en a des milliers, voire la dizaine de milliers, et celui-ci en est un, clairement. Deux, dans son collectif, il y a des personnalités qui traitent de sujets l'islam, notamment de manière extrêmement violente. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce qui rend encore plus compliqué l'analyse qu'on en a, parce que la personnalité de Freeze Corleone, on peut en débattre, j'ai dit ce que j'en pensais, mais son collectif est encore plus incompréhensible et hétérogène. Donc effectivement, c'est relatif à des personnalités qui sont dans une culture, comme je l'ai dit. Et Rachel Khan en a parlé elle-même dans son...
Alors, sur 667, pour finir juste avec ça, il y a un site, parce que je suis allé regarder, FKR92 en particulier, qui est un site musulman sénégalais, où il y a un certain nombre de délires sur le chiffre 19 et sur 667. Et je signale qu'il est sénégalais, parce que c'est relativement important dans la mesure où Freeze Corleone a passé c'est beaucoup de temps au Sénégal, et il y a tout un aspect de son travail qui se rapporte directement au Sénégal. Donc, tout ça pour en venir au fait qu'on n'est pas seulement dans l'héritage français.
Rachel non, mais Khan. En tant que franco-sénégalaise zambienne...
Oui, bien sûr.
Dans les idées qui sont
enfin,
agitées...
De toute façon, la Shoah, elle est mondiale. Hein,
donc non, mais certes. Mais...
Le truc, c'est qu'il y a plusieurs choses à mon sens. Un, on est dans cette émission « Signe du temps ». Et je pense que là, faut vraiment voir la symbolique dans ce qui se passe dans le rap et justement l'émergence à la fois de l'antisémitisme mais aussi de l'islam radical en fait dont tu parlais, Bruno. Moi, je sais que connaissant très bien le Sénégal puisque c'est mon autre pays, la colonisation a laissé place à une islamisation radicale qui est en train de tuer ce pays. Ensuite, tout à l'heure, vous n'avez pas pu vous empêcher de dire la culture en moins.
Oui. Parce que je faisais référence à Shakespeare.
Je ne suis pas certain qu'il n'ait pas lu Shakespeare.
Je ne sais pas.
Et en fait, dans ce qui m'a dérangé dans les réactions et ce qui crispe en fait entre nous-mêmes, les adultes et la jeunesse, c'est pourquoi est-ce que on les considère comme de la sous-culture, une culture en... Moi, si je me mets à vous parler avec mon blaze, sur un flow, avec mes punchs, vous n'allez rien comprendre du tout. Et en fait, lorsque on analyse Deleuze, Hegel, etc., on n'est pas capable, je suis désolée, de faire la traduction. On ne demande pas la traduction du hip-hop. Non, la traduction ne sert à rien. En fait, c'est une une volonté de comprendre ce qu'est le hip-hop.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Virginie Sansico, c'est qu'il y a une rupture épistémologique profonde, et on se rend compte tous les jours en ce moment au procès, entre la manière dont les choses se transmettent, puisque Virginie Sansico, vous travaillez sur la mémoire des attentats,
oui,
en ce moment. Et la manière dont les choses se transmettent ou ne se transmettent pas, ou elles se transmettent différemment, en tout cas, sur le net à travers des personnalités comme Fritz Corleone, et au Monde, par exemple, ou au Figaro, quand ils viennent couvrir les attentats. On a l'impression de deux mondes étanches qui ne communiquent pas du tout.
Alors, il y a une part de ça, mais je pense que cette jeunesse-là, elle est aussi assez ambivalente. Puisqu'il y a les questions de Shoah notamment dans ces textes, il y a eu un sondage, je crois qu'il y a deux ans, qui avait été commandé par la Fondation Jean Jaurès sur le rapport des jeunes à la Shoah, et les résultats de ce sondage étaient assez rassurants en fait, sur un, la connaissance, sur le fait que c'était nécessaire de l'enseigner, sur le négationnisme. Globalement, il y avait toujours des pourcentages, un plus faible pourcentage qui était assez inquiétant. Mais la majorité, enfin, ce qui ressortait de ce sondage était plutôt rassurant. Et je pense qu'il y a cette ambivalence-là chez les jeunes. Ils sont capables de tenir un discours parfois sur la mémoire, etc., qui peut être conforme à ce qu'on attend d'eux, on va dire, pour résumer. Et puis, plébisciter par ailleurs ce type de rapport.
Et j'irai plus loin même, il y a une banalisation de l'insulte raciste.
Et
aujourd'hui, ce que je pense, que moi, les phénomènes que je voudrais qu'on pointe, et là je pense en tant qu'observateur professionnel, entre guillemets, sur des grandes masses de la jeunesse, et aussi à titre individuel les uns les autres, en fonction de ces expériences, j'ai pas le souvenir, évidemment, dans ma génération, que les insultes racistes, entre guillemets, sale noir, ouais, sale juif, sale truc, pleuvaient comme elles pouvaient le pouvoir. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que c'est une banalisation totale de l'insulte interpersonnelle, et deux, le phénomène qui va avec sur les réseaux sociaux.
Oui, parce
et
que
je dirais même les deux.
Quand on...
Et parce que cette expression, aujourd'hui, elle est libre, on la retrouve sur les réseaux sociaux. Ce qui, pour nous, est un vrai sujet, de dire à un moment donné, quand on additionne ce qui est vécu et quand on interroge nos jeunes, quand tu dis ça, mais t'es pas choqué, non, on se le dit tout le temps.
Ouais.
Et que derrière, on voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et comment derrière, ça alimente une haine, y compris sur les réseaux, jusqu'à du harcèlement, ça c'est des sujets qui me paraissent extrêmement importants.
Parce que une des phrases qu'on reproche à Fritz Corleone, tout pour la famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs, plein de gens sur les réseaux sociaux ne voient pas du tout le problème. Effectivement, considèrent pas ça comme des insultes, parce que quand on regarde les paroles de Fritz Corleone, tout est répertorié selon un mode identitaire. La famille est l'or comme un gitan, les blancs sont esclavagistes, c'est normal. Les juifs font du fric, c'est normal. Les gitans aiment l'or, c'est normal. Et donc, conclusion, les noirs doivent se conduire comme des noirs et être à la hauteur de la concurrence identitaire généralisée. C'est ça le message.
Oui, puis il y a même, je crois qu'il y a même un truc sur la Libye, en disant que les noirs vendent leurs frères en Libye.
Exactement.
Pour 150 euros.
Oui. C'est ça.
Donc,
quand vous parlez de culture, quand vous dites que je lui dénie une culture, je lui dénie pas une culture, mais je pense que les références culturelles de Corleone ne sont pas du tout les nôtres. Il se dit, on va l'écouter une seconde, il parle de lui comme d'un professeur.
C'est l'un qui lui a vu réputation, prochaine bientôt ministre de l'éducation. La famille est l'or comme un gitan, que je graille des MC, je me sens comme un titan.
Voilà, Prof Chen, bientôt ministre de l'éducation. C'est-à-dire qu'il a un savoir. Dans la chanson Freeze Israël, il arrive aussi comme Raël, le chef de la secte des Raéliens, détenteur d'un savoir à la fois mystique et scientifique. Et ce savoir, il est assez précis, en réalité. Il y a quelque chose qui est dit. Donc il y a une culture.
Moi, j'aurais adoré que le ministre Darmanin pointe la question du ministre de l'Éducation, là. Parce que c'est tout à fait notre sujet. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord pour... On a construit l'Europe après la guerre. C'était pour des raisons très précises, l'Europe économique. On est capable d'aller voir Angela Merkel, de lui parler sur la politique monétaire, etc. À quand une politique éducative et culturelle identique à ce qu'a fait l'Allemagne pour réparer sur ces sujets-là. C'est-à-dire que mais c'est pas au lycée, hein. C'est pas au lycée, c'est pas mais à la fac, c'est à la maternelle.
Je n'arrive pas à voir du tout en quoi une politique de l'éducation.
Alors, rapport à ce qui s'est passé pendant, là, en tout cas sur l'antisémitisme.
Les références de quelqu'un comme Fritz Corleone n'ont rien à voir avec ça. Pas directement. Ses premières références, par exemple, le Kilou qu'on vient d'entendre dans cet extrait, le Kilouminati, ça fait référence à Tupac Shakur, à toute une théorie.
Bien sûr.
Si vous pouvez l'expliquer.
Sur les choses sectaires.
Non, parce qu'il faut l'expliquer. La théorie de Tupac Shakur, justement, qui se fasse tuer, c'était l'idée que les Kilouminati, ça veut dire qu'il fallait tuer les théories du complot pour s'intéresser, nous, noirs, à faire de l'argent et à prendre le pouvoir et arrêter d'être paranoïaque. Fritz Corleone reprend cette idée, mais en lui faisant rentrer à nouveau la théorie du complot.
Oui. Juste ça, à l'école, on apprend précision ça, on quand même, et je le redis, le sujet Fritz Corleone, aujourd'hui, je ne sais pas ce que pense ce Fritz Corleone. J'ai juste qu'il dit des choses qui ne sont pas acceptables. Il dit certaines choses qui ont un caractère antisémite, négrophobe, on l'a vu, on a fait la liste. Je ne connais pas sa pensée, je ne sais pas s'il en a une, mais c'est un sujet effectivement de débat. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est qu'elle est révélatrice de quelque chose qui est beaucoup plus massif, et qui justement demande, comme le dit Rachel Kahn, une interpellation non pas énigmatique sur le fait de dire il faut le condamner, le boycotter, le sortir, ce qui est une notion juridique, d'ailleurs j'ai vu qu'il était encore sur les réseaux, Spotify et autres, qui demande, je pense, une interpellation sociétale et intellectuelle beaucoup plus profonde. Que je trouve que dans notre échange, c'est ça, pour moi, ce que révèle le phénomène Fritz Corleone, de mon point de vue.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, Julie Francisco, et moi j'ai l'impression que essayer d'interpeller la société en faisant appel à une forme de savoir classique, c'est se heurter à un mur, parce que le monde auquel on a affaire là, c'est un monde qui nous échappe, qui est tout à fait autre. L'enseignement classique n'a pas de prise, il me semble.
On a un peu le sentiment, je trouve, à travers cette volonté de choquer, que tout ce qui pour nous constitue des codes de pensée communs sont pour eux une forme de catéchisme qu'on va aller désinguer par nos punchlines, comme ils disent. Et là, notre responsabilité à nous, d'enseignants, de gens qui vont réfléchir, ça va être de comment transformer cet enseignement pour qu'il ne sonne pas comme un catéchisme, mais qu'il sonne comme un apprentissage et la manière de constituer un tronc commun à tous. Déjà intergénérationnel, mais aussi dans le cadre de cette génération qui ne pense pas non plus de manière uniforme.
Je voudrais citer, la notion de punchline est intéressante parce que c'est visiblement ça que les auditeurs attendent, c'est les punchlines qu'ils attendent. On ne peut pas toutes les entendre pour des raisons de temps, mais je voudrais en citer une ou deux. Chen Laden dans le complot depuis les deux tours, avance deux tours de retour comme Gandalf dans les deux tours, par exemple. Fuck le 12, fuck le 9-1-1 dans le complot depuis le 9-1-1. Alors, il y a beaucoup de choses dans deux lignes comme ça. Il y a les deux tours, c'est évidemment le World Trade Center. Gandalf dans les deux tours, c'est une référence au Seigneur des Anneaux. Et aux deux tours, qui est le deuxième volume du Seigneur des Anneaux.
C'est pas
la Touraine. Donc, tout est crypté de cette manière, et quelquefois de manière assez subtile. La fameuse phrase qui fait scandale et que tout le monde, en même temps, sur laquelle en même temps tout le monde salive, en quelque sorte, parce que c'est ça qu'on attend, c'est « Je suis à Dakar, t'es dans ton centre, à Sion, SO les Indiens d'Amérique, SO l'esclavage, RAF de la Shoah ». La Shoah est embipée, rien à foutre de la Shoah. Et c'est intéressant de se rendre compte que cette punchline arrive entre la 39e et la 45e seconde de la chanson, ce qui n'est pas du tout un hasard. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées comme ça. On va écouter juste un extrait de Sacrifice de masse. Le début, on entend Luc Ferry parler sur Sacrifice de masse numéro 1 et ensuite Sacrifice de masse numéro 2 où c'est Osiris Jack qui chante, qui est un des membres du collectif 667.
Un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit.
Les
Guidestones
qui se trouvent.
Régulation de population.
Sacrifice de masse.
Effet faux.
Armes biologiques.
Trafic d'organes.
Réseau pédophile.
Esclavage.
Négrophobie.
Charlie.
Ganda,
Hassan,
déferlement d'eau sur la terre, on en dans le verso man.
Pas 19 persos, mec, ça va pop sur ma tête. 660 plus 7, connard. Là pour les sous, pas de sang silicone. Ça découte puis Dakar, SO, le bec, Soman. Nique sa grand-mère comme le Erdogan. Trafic de terre, d'organes, Angleterre, Indocan. Bibi des Rindocas. Arrive grave, pas qui lui comme la Poel. Tel Aviv, j't'ai déjà dit dans le rap, y'a Vlad Cohen. La conche vient d'Eindhoven. NRM, ça s'en vient sous forme de gaz. Transforme, la concurrence sort de gaz, n'est jamais sop de base. HH, weed, weed, fonce car, le dollar, j'attends sa chute, vite, vite. HH, weed, weed. Shenzhen, chasse des vampires comme Van Helsing. Livre jaune, 1 à 7, SO Van Helsing. Je maîtrise la rime SO 7, Gex Alcanéochrome. Ils enlèvent des enfants pour extraire l'adrénochrome. Ces négros tournent en rond comme au champ de course. Les flammes pour tous ceux impliqués dans le réseau de Zandvoort. Foncez dans les archives.
Alors, sur cette chanson, il y a énormément de choses. Hein. Il y a d'une part la voix de Luc Ferry en train de parler de dénoncer un scandale pédophile, qui est une des obsessions.
Tout à fait. C'est un fil rouge du sujet.
Et puis ensuite, il y a plusieurs choses dans ce qu'on vient d'écouter. Il y a 660 plus 7 connards, c'est référence à 667. Tel Aviv, je t'ai déjà dit, dans le rap, il y a Vlad Cohen, c'est-à-dire il y a trop de juifs dans le rap. Et puis, NRM, ça en vient sous forme de gaz. HH, weed, weed, fonce, le dollar, j'attends sa chute, vite, vite. Et ce qu'on n'entend pas bien, parce que c'est crypté, c'est HH, 88, c'est-à-dire Hitler. Ce sont des références de l'extrême droite et néo-nazis. Mm-hmm. C'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que ce qui fait passer, c'est sous couvert de tiers-mondisme, c'est une idéologie néo-nazie d'extrême droite, quoi, avec les références néo-nazies. Mm-hmm. Comment est-ce que c'est possible? Il y a un des trucs, une des références dont on parle très peu dans ces textes, c'est la référence à Kémi Séba. Kémi Séba, c'est un militant qui a été membre de Nation of Islam à Paris pendant un certain temps, qui a créé un groupuscule noir radical qui s'appelait au début le Parti Kémite en 2002, et puis en décembre 2004, il a fondé la tribu K. En mai 2006, il est devenu célèbre en réalisant une descente dans le quartier juif historique de la rue des Rosiers. Et puis, ça a conduit à la dissolution de l'association.
Je crois qu'il a été condamné d'ailleurs.
Il a été condamné pour ça. Ouais. En 2008, il s'est converti à l'islam. En 2012, il a été frappé d'une interdiction d'entrer en Suisse alors qu'il devait tenir une conférence à l'invitation de la branche suisse de Égalité et Réconciliation, le mouvement de Soral. Et en 2014, il a écrit un livre qui s'appelle Black Nihilism. Black Nihilism, qui recoupe beaucoup les préoccupations de Fritz Corleone, dans lequel notamment il défend les thèses de la tradition primordiale. C'est une tradition mystique qui unirait toutes les religions, qui est une idée développée au départ par René Guénon, et livre pour lequel il a été invité au Théâtre de la Main d'Or par Dieudonné, qui par ailleurs défend Fritz Corleone. Et un de ses livres suivants a été préfacé par Alexandre Douguine, le conseiller d'extrême droite, conseiller on et off de Vladimir Poutine, qui l'a invité à Moscou également pour prôner le panafricanisme. Donc on est là, une fois de plus, au croisement de révoltes de banlieue, d'islamisme et d'extrême droite militante qu'on retrouve constamment depuis le milieu des années 2010, en fait. Pas seulement en culture.
Je ne sais pas du tout ce qu'il dit sur la banlieue en tant que telle, Fritz Corleone, parce que moi j'ai l'impression que c'est un discours extrêmement individualiste et professoral, comme vous le disiez. Et j'ai pas le sentiment qu'il ait un esprit collectif en quelconque, au contraire, parce que c'est une logique sectaire, il me semble, quand vous parliez du 667 et d'un collectif extrêmement restreint. Certains artistes en général, et il est arrivé à des artistes illustres aujourd'hui, de se réclamer de quelque chose de la banlieue, de leur ville, d'un collectif beaucoup plus large. Je crois qu'on n'est pas là-dedans, on est dans une logique beaucoup plus sectaire. Et c'est ça qu'il faut dire, et c'est la complexité du sujet, c'est que c'est pas une secte monothéique, c'est poly sujet, et là vous venez d'en parler, on en découvre aussi, hein. Et ce qui fait que, il fallait clairement, et je le redis, nous on en avait parlé il y a un an, alors que toute la presse n'en a jamais parlé, et qu'ensuite, des grands groupes aussi, où on en fait la promotion, il n'y a pas de sujet, mais on aurait peut-être dû en mieux en parler, mais on en a parlé, ce qui était déjà une chose, il y a un an, alors qu'aucun album n'était sorti et n'était pas signé chez Universal, etc. Et ni promu par Canal+, et par le système au sens commercial du terme. Deux, en en parlant, peut-être qu'effectivement, un débat interne, on va dire, aux gens qui connaissent cette musique, aurait dû être mené. Il n'a pas été mené. C'est ma première grande surprise, au sens disant, bon tiens, et ce sujet, il faut le dire, et je le dis, moi je le dis de manière extrêmement forte, peut-être qu'il a été mis comme un facteur tabou, peut-être par ignorance.
Pas seulement par ignorance. Quand on regarde les papiers qui sont sortis, on voit bien que les gens tournent autour du pot.
Peut-être par ignorance pour certains, et certains en tournant autour du pot. Et il y a un deuxième élément, je ne fais pas la comparaison exacte, il y a eu des sujets aussi sur lesquels on a pu échanger, nous, à Mouv, il n'y a pas longtemps, sur la question de la violence faite aux femmes. Et je ne mets pas la comparaison entre l'antisémitisme et l'enfer, mais je parle que de temps en temps, il faut aussi lever des tabous dans tous les sujets, dans toutes les parts de la société, et particulièrement dans
Je pense pas que ce soit des tabous, en l'occurrence. Il semble que quand on regarde ce qui se passe dans la manière dont ont été couverts les chansons et les disques de Freeze Corleone, on se rend compte qu'il y a un mélange d'excitation, et moins on parle ouvertement de ce qu'il dit, et plus, d'une certaine manière, c'est excitant et plus c'est intéressant. Parce que le principe des punchlines est qu'elles sont à demi ésotériques, mais compréhensibles par qui veut comprendre. Il y a ce jeu avec le je le dis sans le dire.
Avec plein de lignes de lecture.
Voilà.
Beaucoup de gens pensent qu'elles n'ont pas une portée réelle.
Ce qu'on vient d'entendre, HH88, qu'on n'entend pas, HH88, mais qu'on entend quand même, c'est tout ce jeu pervers, là. Mais ce qui est intéressant, je voudrais finir là-dessus, Virgile Sanseco, c'est qu'on retrouve au bout du pouls du parcours de Freeze Corleone, on retrouve Kémy Séba, Dieudonné, Alain Soral, Dugin et l'islam radical, c'est-à-dire qu'on retrouve tout ce qui a fait la matrice des attentats dont on parle en ce moment au Palais de Justice, et ça sort maintenant.
Alors c'est sûr que les convergences peuvent paraître étonnantes, mais elles ne sont pas nouvelles. L'amitié Soral Dieudonné nous montre à quel point ça fonctionne, et ça fonctionne déjà de longue date.
Le Pen, évidemment, aussi.
Donc il y a des convergences. On a été amusé hier au procès des attentats parce qu'il y a un trafiquant d'armes notoire qui était entendu comme témoin, qui est un membre de l'extrême droite du nord de la France très, très affirmé. C'est quand même défini comme un identitaire de gauche. Et il a expliqué ça à l'audience. Et c'était tout à fait intéressant. Et c'est un type qui a travaillé avec des islamistes radicaux. Alors, pas avec des intermédiaires parfois, mais il y a quand même une réalité de ces liens qui peuvent se nouer.
It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Do we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust? The clock is ticking its last couple of talks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la réalisation Perret Legras et à la technique Cédric Châtelus. Dans un instant, une histoire particulière.
Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going down, down,
are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line.